Bienvenue à toi, avec tes pieds et tes oreilles. Bienvenue en forêt de soigne. C'est une promenade qui t'est proposée au départ de l'hippodrome de Boisfort, mais tu peux aussi l'écouter où que tu sois en forêt. Il n'y a pas vraiment de parcours précis à suivre. Tu peux l'écouter en marchant sur les chemins forestiers ou posé sur un banc. Tu en trouveras ici et là en forêt de soigne ou le long de la piste de l'hippodrome. C'est une promenade à écouter avec un casque sur tes oreilles ou des écouteurs. Parce que si tu l'écoutes sur le haut-parleur de ton téléphone, tu pourrais déranger la faune de la forêt. Un oiseau pourrait prendre ombrage de la voix de ce nouveau venu, inconnu, qui sort de ton téléphone. Prends le temps maintenant de bien régler le volume sonore de ton portable. Ne te coupe pas complètement de la forêt. Tu dois pouvoir entendre ma voix, mais aussi un vélo qui passe, une corneille qui crie, ou la voix de quelqu'un qui aimerait te parler. Tu y es ? Alors, ton écoute va pouvoir se mettre en marche. Sache qu'à tout moment, tu peux aussi mettre ton lecteur en pause, ôter ton casque pour écouter, avec tes oreilles nues, la forêt qui bat là où tu es. Et puis, reprendre ton casque et le fil de cette balade sonore.
Dans la forêt, on oublie le temps. On est hors du temps et on est peut-être dans une sorte de poésie face aux éléments, face à la nature, face à la beauté de la nature.
Pour moi, la forêt, c'est vraiment quelque chose d'important.
C'est quand même chaque fois différent, que ce soit printemps, été, automne, hiver. Chaque promenade est différente, chaque promenade a une lumière différente, a une couleur différente.
Elle est apaisante. Pour moi, c'est la paix, donc je peux arriver stressée. Il suffit que je me balade quelques mètres dans la forêt pour qu'il y ait un apaisement magique.
Et donc chaque fois, il y a des découvertes à faire, il y a de l'aventure à vivre.
Un monde tout le temps en mouvement, il y a la faune, il y a la flore aussi. Il y a toutes les questions qu'on se pose sur comment la forêt est gérée aussi. Ça aussi, c'est assez passionnant.
Laisse-moi me présenter. Je suis une muse de la forêt. J'accompagne celles et ceux qui emmènent leurs pieds en forêt, comme toi aujourd'hui. Pas que leurs pieds d'ailleurs, leurs oreilles aussi, leurs yeux, leur odorat, leur imaginaire. Si tu veux bien, prenons le temps d'y entrer en conscience. Comme si nous étions invités chez quelqu'un. Ou comme si nous entrions dans un temple ou un sanctuaire. Moi, quand j'entre en forêt, j'aime symboliser une porte. Par exemple, entre deux arbres de part et d'autre du chemin. Je marque un temps d'arrêt sur le seuil de cette porte imaginaire. Et en pensée, je me présente. Et je dis « Bonjour ». Merci de m'accueillir aujourd'hui. Cela rend l'entrée plus solennelle, tu ne trouves pas? Et puis, je passe cette porte imaginaire. Et cela me donne l'impression d'entrer en forêt comme dans un autre monde. Un peu magique. Bon, as-tu toi aussi trouvé et passé cette porte d'entrée dans la forêt? Nous voici alors en forêt de soigne. Et tout au long de cette balade, je vais te faire rencontrer des amoureux de la forêt. Des personnes qui y travaillent, qui la soignent, qui s'y promènent, qui la côtoient, qui la chérissent.
Ah, j'aime la forêt pour sa sérénité et... J'habitais à côté de la forêt quand j'étais petite et maintenant je réhabite près de la forêt et c'est un bonheur. Et j'aime beaucoup me promener seule, à mon rythme, écouter les bruits, sentir les odeurs, regarder un petit bourgeon, un petit oiseau, Je suis très sensible au chant des oiseaux, évidemment au printemps, ça me parle encore plus. Oui, non, c'est vraiment une source de sérénité pour moi.
On pourrait, si tu le veux bien, essayer de marcher lentement. Plus lentement que d'habitude. Très lentement même. Juste pour prendre le temps de sentir le sol sous nos pieds. La terre qui nous porte. Essaye avec moi, tu veux bien ? De marcher lentement et de regarder autour de toi. D'humer comme un animal sauvage. De sentir la caresse de l'air sur ton visage. D'écouter la forêt qui bruit. Ok, tu as raison. Ma voix couvre un peu le murmure de la forêt. N'hésite pas à me couper la parole. Tu peux mettre ton lecteur en pause et ôter ton casque quelques instants. Le temps de baigner tes oreilles dans les sons que la forêt t'offre en ce moment même. Tu es là à nouveau ? Moi, je suis toujours là et prête à t'accompagner encore un peu sur ton chemin forestier. Parfois, j'aime m'approcher d'un arbre en bord du chemin. Là où tu es, peut-être qu'un arbre te fait de l'œil. Façon de parler, bien sûr. C'est une invitation à t'approcher de lui. Vas-y, approche-toi. Plonge tes yeux en lui. Plus près encore. Du bout des doigts, tu peux caresser son écorce. Suivre le dessin de ses cicatrices. Le relief du bois. Bon, ce que tu sens là sous tes doigts, c'est pas vraiment du bois. Le bois, lui, il est à l'intérieur. L'écorce, c'est un peu comme sa peau. Lève les yeux maintenant. Suis le tronc jusqu'à sa cime. Souvent, alors moi, je perds pied. Parce que là-haut, si le feuillage n'est pas effacé par l'hiver, il me donne le tournis. Alors je reviens au sol. Et je cherche les racines de l'arbre, les racines visibles. Et puis j'aime imaginer celles invisibles qui s'étendent sous mes pieds. Tu pourrais aussi t'asseoir en bord de chemin, plus près du sol. Rester immobile, comme un animal à l'affût. Diriger ton regard vers la litière, cette couche de matière végétale morte qui recouvre le sol. Prends patience. Tu vas sûrement voir l'un ou l'autre insecte qui va, qui vient, affairé, concentré sur sa tâche, minuscule au pied de ces grands arbres. J'aime alors imaginer que je suis l'un de ces insectes. Je fais partie du monde des minuscules et me faufile sous les feuilles. Il y a là des allées, des boulevards, des galeries que je connais par cœur. Parfois, je disparais même sous la terre. Une forêt, pour moi, c'est comme une grande famille. Et pour toi, c'est quoi une forêt ?
Une forêt, c'est toute une diversité d'habitants, animaux, végétaux, et tout un ensemble d'habitats, toute la complexité de vie de ces habitats qui rassemblent justement animaux et végétaux.
Ce qui me fascine en forêt, c'est le lien qu'il y a entre tous les êtres vivants. Ils sont tous interdépendants. Alors quand je dis les êtres vivants de la forêt, c'est évidemment les arbres, les plantes, mais c'est aussi les mammifères, les insectes, les champignons, les lichens, les algues, du microscopique au macroscopique, on a tellement de richesses en forêt.
Taillis, futés, fouillis, taillis, vallons de rêve, talus fonds humides, sources étangs, écorce, litière, bois mort, mousse, fougère.
Écorce, litière, bois mort, mousse, fougère.
La forêt, pour moi, c'est comme une joyeuse mosaïque. Elle est dense ici, plus ouverte là. Une mosaïque de formes, de couleurs, d'ambiance. Et que l'on soit autour des palombes, troglodytes, sittelles ou mésanges, chevreuils ou renards, campagnols ou musaraignes, araignées, coléoptères ou fourmis. On se crée un chez-soi à sa mesure, avec ses cachettes, ses garde-manger, ses postes d'affût. Ici, on imaginait que j'avais une baguette magique. En quel être de la forêt aimerais-tu que je te transforme ?
Si j'étais un animal, ben je pense que je serais un oiseau.
Je pense que je choisirais le pouillot, qui peut se balader de branche en branche, chercher des insectes dont il se nourrit, et surtout pouvoir observer la richesse de la forêt et traverser ces différentes strates de la forêt, donc depuis le tout en haut jusqu'en bas, jusqu'aux premières branches basses. Et donc ce pouillot, il est d'une teinte verte, et donc se mêle très bien avec les feuilles et peut passer inaperçu, si ce n'est qu'il a juste un chant magnifique. Le pouillot, on l'appelle aussi le compteur d'écus, en fait. C'est comme si des pièces tombaient au sol, ou on l'appelle aussi le tif-tiaf. Et ce tif-tiaf, une fois qu'on a découvert, ne nous lâche plus. On peut passer d'un tif-tiaf à l'autre, puisqu'ils ont chacun leur petit territoire. Et au sein d'une balade, on peut passer d'un territoire à l'autre et les écouter et qui se répondent.
Je pense que je souhaiterais être le chevreuil. Parce que le chevreuil est un mammifère assez remarquable pour moi de par sa résilience. Dans les milieux qui sont les plus fréquentés, par exemple le bois de la Cambre, le chevreuil ne fréquente pas ces milieux-là, même si le milieu lui est hospitalier, parce qu'il est trop dérangé. Et ce qu'on constate, c'est que le chevreuil commence, et depuis quelque temps déjà, à conquérir et se développer dans des endroits où il n'était pas présent, par exemple dans le domaine d'Argenteuil, où il a réussi à trouver des failles dans la clôture pour pouvoir s'installer dans ces milieux-là où il est protégé de toute pression récréative. Et quand on souhaite protéger le chevreuil, c'est en même temps tout un cortège faunistique qui a les mêmes exigences de milieu qu'on protège. Et donc, le chevreuil, en ce sens, pour moi en tout cas, est vraiment à considérer comme l'emblème de la forêt de soigne.
L'autre jour, j'accompagnais une petite fille en forêt. Elle m'a demandé « Pourquoi les arbres sont-ils grands ?» C'est bien une question d'enfant, ça. Tu t'es déjà demandé, toi, pourquoi les arbres sont grands ? C'est vrai qu'à côté d'une herbe ou d'une pâquerette, ce sont des géants. Pourquoi donc sont-ils si grands ? En forêt de soigne, certains mesurent jusqu'à 50 mètres de haut. Et tout ça pour être dans la lumière.
Alors j'ai envie de vous partager un fait que je trouve fabuleux en forêt, au sein d'un arbre. Vous imaginez ces arbres qui peuvent atteindre 20, 25, voire 30 mètres de haut. L'eau qui alimente ces arbres, elle vient du sol. La photosynthèse, la production d'énergie, la création de ces sucres qui sont métabolisés se fait au niveau de la feuille. Et donc il faut que l'eau arrive jusqu'à la feuille pour cette fabrication de sucre. Ces sucres, ceci dit en passant, qui vont servir à créer des réserves pour les arbres. Ces réserves qui vont redescendre une fois qu'ils seront créés le long des troncs jusqu'aux racines pour être mis en réserve pour passer l'hiver. Et donc c'est de comprendre comment finalement cette eau qui vient du sol arrive jusque tout en haut alors qu'il y a quand même 20, 25, 30 mètres de distance à parcourir. Et donc vous devez imaginer quand vous regardez un arbre à l'intérieur, c'est comme si vous avez chaque fois toutes des pailles extrêmement fines qui sont aboutées, mises les unes au-dessus des autres pour créer ce qu'on appelle une structure de vaisseau. Ces vaisseaux sont extrêmement fins. Et puis vous savez tous que l'eau, quand vous la mettez sur une table toute seule, ça fait un petit ménisque en fait, c'est un peu bombé. Donc c'est ce qu'on appelle finalement, il y a une cohésion qui est très très forte dans les molécules d'eau. Et c'est de par le fait que cette de cette cohésion très forte des molécules d'eau et de ces vaisseaux qui sont extrêmement fins que l'eau peut monter en fait par capillarité. Et c'est au niveau de la feuille, là où a lieu le processus de photosynthèse, où l'énergie créée crée cette tension d'aspiration et qui va emporter le flux d'eau donc, de proche en proche, et ce jusqu'à 20, 25, 30 mètres de long. Et je trouve ça juste fabuleux.
Combien d'arbres peux-tu reconnaître à son tronc, à ses feuilles, à sa silhouette, à son habitat? Ça, c'est une colle, hein? Bon, je vais te l'aider. Ici, en forêt de soigne, le plus répandu, c'est le hêtre. Regarde autour de toi. Tu as vu ces arbres bien droits, à l'écorce argentée, fine et lisse? C'est le hêtre. Fagus sylvatica, de leur nom savant. Contrairement aux chênes, qui eux s'emmitouflent sous une écorce épaisse et crevassée, le tronc du hêtre n'est pas très protégé par sa peau fragile et sensible aux brûlures du soleil. Aussi, il se coiffe d'un parasol de feuillage particulièrement dense, pour se protéger. Et du coup, sous les hêtres, il n'y a souvent pas assez de lumière pour qu'un sous-bois puisse se développer. Parfois, on dit d'eux que ce sont des géants aux pieds d'argile. Ils s'élèvent si haut et sont enracinés si peu profondément dans le sol qu'une forte tempête peut les faire tomber comme des quilles. Et il paraît que l'envergure de la cime d'un arbre est en miroir de l'étendue de ses racines sous terre. Alors dans ta promenade, si tu passes à côté d'un hêtre tombé lors d'une dernière tempête, considère un peu le diamètre de la galette de sol que les racines ont soulevée quand l'arbre s'est couché. Et devant ses racines, ainsi mises à jour, j'aime bien honorer l'arbre en considérant ce qu'il a tenu debout pendant toutes ces années. Et puis j'aime aussi toucher la terre, encore captive, entre les racines et les radicelles, la faire rouler entre mes doigts, sentir son odeur.
La partie boisée de la forêt de Fagne a fortement évolué au cours du temps. Avant l'époque autrichienne, c'est-à-dire avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est une forêt qui était laissée à elle-même et les propriétaires de l'époque, les têtes couronnées, pratiquaient la cueillette pour payer les efforts de guerre et pour doter leurs filles lors de mariages princiers. Ce qui amenait à avoir un épuisement très très fort de cette forêt. À l'époque autrichienne, ils ont décidé d'améliorer la qualité des arbres dans un objectif économique pour fournir du bois à la ville de Bruxelles qui était en plein développement à l'époque. Et donc, ils ont confié cette mission à un certain Joachim Zinner, autrichien de sa nationalité, qui avait déjà réalisé l'aménagement du parc royal au centre-ville. Et donc, lui a été confiée la responsabilité de régénérer, restaurer cette forêt.
Et Joachim était fan du hêtre. Il a donc choisi de planter plein de hêtres. Des hêtres qui ont été cultivés pour pousser haut et droit.
On sait qu'on est en forêt de Fagne de par la beauté de ces hêtres. Et la beauté de ces hêtres est liée justement à cette espèce et ce phénotype tout à fait unique qu'on a ici en forêt de soigne, qui est le hêtre de soigne, avec des troncs d'une rectitude, d'une cylindricité tout à fait unique.
Et quand on se promène dans ces futaies de hêtres, ne trouves-tu pas qu'on peut s'imaginer avancer comme dans une cathédrale? Les troncs des hêtres en seraient les piliers, hauts et droits, comme un lien entre terre et ciel, et la verte et frémissante canopée en serait le plafond. D'ailleurs, plein de poésie, les forestiers parlent de hêtrée cathédrale.
Mis ensemble, s'ils ont le même âge, bien ça donne ce qu'on appelle le paysage de la hêtrée cathédrale, qui est un paysage qui est unique au monde. On a encore la chance d'avoir ici, en forêt de Soignes, dans certaines parties du massif, des hêtres qui ont été encore plantés à l'époque autrichienne.
Le plus vieux hêtre encore debout m'a dit qu'il avait 270 ans. Et d'autres ne sont pas très loin de cet âge avancé. J'aime imaginer ce que ces vieillards ont pu voir passer sous leurs branches durant ces presque 3 siècles. En fait, ici, en forêt de Soignes, on laisse aux arbres le temps de vieillir.
Évolution de notre société, la part du volet récréatif a pris de plus en plus d'importance et l'âge d'exploitabilité des hêtres a été reculé jusqu'à l'heure actuelle d'être plutôt dans des âges de maintien de l'ordre de 200, 220, 250 ans, 270 ans pour le plus vieux.
Et du coup, ces vieux peuplements sont riches en bois mort. Avant, les forestiers évacuaient le bois mort de la forêt. Ils craignaient, mais ils avaient tort, que les insectes attirés par le bois mort ne se mettent à attaquer le bois sain. Mais ça, c'était avant. Depuis, on sait que ce n'est pas le cas. Et donc, aujourd'hui, l'arbre qui vieillit dans la forêt, il y meurt soit de vieillesse, de maladie, ou bien abattu par une tempête. Et même mort, il reste dans la forêt. Encore debout, en chandelle, ou bien couché au sol, jusqu'à y être décomposé et retourné à la terre.
La chute des feuilles, puisqu'on est quand même dans des forêts feuillues chez nous qui perdent leurs feuilles en hiver, cette chute de feuilles renourrisse les sols, rapporte de la matière organique au sol. Mais à elles seules, les feuilles ne suffisent pas à nourrir le sol. On a besoin aussi de retrouver au niveau des sols pour que cette nourriture qui va au niveau des racines soit en suffisance, qu'un certain nombre d'arbres qui finalement sont en fin de vie, sont en perte de vitalité et commencent à mourir de leur belle mort, que ces arbres, on puisse les laisser dans la forêt. Donc ces bois morts sur pied, ce sont vraiment des immeubles à insectes, à champignons. Ils abritent un nombre incalculable d'espèces, des espèces qui malheureusement sont souvent en régression chez nous. Et puis il y a du bois mort au sol aussi, qui n'est que la suite logique du bois mort sur pied. Et ce bois mort, il est dans un stade de décomposition qui est différent que le bois qui vient juste de mourir, et donc il accueille encore d'autres espèces.
Les champignons se chargent de recycler le bois mort. Tous ces petits habitats font que nous avons des espèces particulières, comme un carabe spécifique à la forêt de Soignes. Ici, au Bataillon de Boisfort, existe également le lucane cerf-volant. C'est le seul endroit à Bruxelles où on peut l'observer. Et donc, tous ces petits habitats, un arbre mort sur pied, attire aussi les chauves-souris. Contrairement à ce que personne pourrait croire, ce n'est pas laisser la forêt non entretenue à l'abandon. Non, pas du tout. C'est voulu donc de laisser, là où la sécurité est assurée, de laisser justement des branchages morts pour évidemment contribuer à maintenir cette richesse.
Et toute sa vie, dans les creux de son écorce, dans les plis de ses branches, dans l'ombre de ses feuilles, dans les nodules de ses racines, dans la pourriture de sa souche, chaque arbre offre le gîte et le couvert à une myriade d'êtres vivants que nous, promeneurs, ne soupçonnons même pas.
Identifier, reconnaître, trouver qui est quoi, comment évolue telle plante, comment évolue tel animal.
Ralentissons encore notre marche, tu veux bien ? Pour bien sentir le sol sous notre pas. On pourrait même se mettre pieds nus pour le sentir encore mieux et percevoir son énergie. Ce sol, c'est un réel livre d'histoire. Imagine-toi, nous marchons ici sur un sol qui n'a jamais été transformé par l'homme, jamais. Depuis la dernière glaciation, il y a 10 000 ans environ, il n'a jamais ici été cultivé.
Et donc ici, on a aussi la chance d'avoir un relief qui est lié justement à ces périodes glaciaires interglaciaires où des tonnes de glace ont fondu avec le réchauffement climatique et ce flux d'eau a créé justement ce relief qui est caractéristique de la forêt de Soignes avec ce qu'on appelle les dèles qui sont des vallons qui ont été créés par l'érosion des sols liée à ce flux hydrique.
Moi, je serais un champignon, ou plutôt, je ferais partie du mycélium. Je suis ébahie de ce qu'on découvre du rôle joué par ce mycélium souterrain. Je suis vraiment très, comment dire... Je suis dans un étonnement, en fait, où je pourrais même parler d'une fascination par rapport au mycélium, parce que c'est quelque chose de nouveau dont on se rend compte de l'importance du mycélium dans le réseau qu'il crée, mais aussi dans la symbiose. Donc la symbiose, c'est le vivre ensemble en accord mutuel, avec les racines d'arbres, mais aussi les racines et tous les autres êtres vivants sous ce sol. Donc oui, j'aimerais faire partie de cette grande toile du mycélium. Alors je ne serai pas l'ensemble du mycélium, moi c'est justement, ça m'amène à cette question que je trouve essentielle, qui nous manque à nous les humains, c'est l'humilité. Et c'est, je trouve, le mycélium, faire partie du mycélium, c'est aussi se remettre au niveau de cette nature et de cette complexité qui s'est développée et où chaque être vivant a contribué. Et le mycélium, on découvre sa contribution énorme. Et moi, je souhaiterais bien que les humains soient plus mycélium et qu'ils apprennent aussi de ce mycélium et en particulier de l'humidité. L'humilité, pas que l'humidité, l'humilité par rapport à ce qui est devant nous et cette nature sans laquelle on n'est rien.
Je crois que je serais un ver de terre parce que je... Je trouve que le ver de terre est silencieux, il fait son boulot sans que personne le sache, il a sa niche, il est très utile et il représente quand même grosso modo 90% de la masse de la vie, du vivant qu'on ne connaît pas et qui est dans le sol. Et je pense qu'il améliore cette masse du vivant, cet humus qui est essentiel pour notre environnement et pour capter par exemple le CO2 atmosphérique et faire en sorte qu'il soit le lit de toute la vie terrestre entre ciel et terre.
Quand je marche en forêt, je prends parfois conscience du temps. À la fois le temps long, celui des forces géophysiques qui ont modelé la terre, qui ont façonné le sol que je suis en train de fouler et qui est le support de toute cette vie. Et puis aussi du temps si court de nos montres qui s'emballent depuis quelques dizaines d'années à peine et qui transforme tout de manière vertigineuse. Dis-moi, cette forêt qui est là depuis si longtemps, ces sols hérités des dernières glaces, Que seront-ils demain? La terre se réchauffe, sécheresse, inondation, tempête. Le être souffre, et moi je m'inquiète.
L'arbre, ben, on s'en inspire beaucoup, on a besoin des arbres. Ils ont été là avant nous et j'espère qu'ils seront là après nous. Et on a beaucoup à apprendre d'eux encore aujourd'hui.
Alors moi j'ai à cœur, et je suis très touchée quand je parle de forêt nourricière, parce que je suis convaincue que la forêt, elle vient nous nourrir, elle vient nous rechercher dans qui nous sommes, nous humains. La forêt nous nourrit... par tous nos sens, en fait, elle vient éveiller tous nos sens quand on se balade en forêt. Vous pouvez très bien vous rendre compte à la fin de votre balade que vous êtes beaucoup, beaucoup plus en paix, vous êtes beaucoup plus détendu. La forêt apaise. Si vous regardez bien ces arbres, ces géants, ils sont tellement ancrés. C'est donc du végétal, avec des racines ancrées dans le sol. Donc vous devez imaginer toute l'immensité du feuillage au-dessus de vous. Ben vous imaginez la même chose dans le sol, voire plus au niveau des racines. Donc il occupe un espace phénoménal en dessous de nos pieds, dans un labyrinthe, une intrication de racines. Et ces êtres vivants que sont les arbres sont ancrés, ils ne bougent pas, mais ils ont une faculté d'adaptation juste fabuleuse. Et j'ai vraiment juste envie de vous dire, prenez-en de la graine et imaginez-vous cet arbre qui ne peut pas bouger mais qui peut s'adapter, qui passe le temps. Un chêne vit des centaines et des centaines d'années, un bouleau peut vivre jusqu'à 80 ans, un hêtre peut vivre jusqu'à 200, 300 ans. Et pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il en a vu des choses ?
Nous, on les a accompagnés ou eux nous ont accompagnés. Et donc, je trouve ça important de porter l'attention à ce qui peut encore nous apprendre. Et entre autres, cette question des racines et de ces connexions, communications qu'il y a via des substances qui circulent et qui nous permettent aussi de se dire, ben, nous aussi, on fait bien de s'en inspirer de cette coopération et de créer ces mycéliums dans l'ombre, peut-être, de façon à faire une forêt plus, je dirais, plus connectée, que nous, les hommes humains, soyons moins connectés à l'électronique, peut-être, mais plus connectés entre nous, et d'être conscients de ces liens qui peuvent nous lier, et de cette force, et le côté indispensable, parce que c'est vrai que je parlais de l'arbre en ville, mais... Un arbre en ville, quelquefois, n'est pas... il peut être seul, parce que justement, il est plus connecté par ses racines aux autres arbres, aux autres végétaux, parce qu'il y a les trottoirs, parce qu'il y a la route, parce que, voilà, c'est un autre monde qui est important aussi, mais c'est différent.
Je t'invite maintenant à ôter le casque de tes oreilles. Durant quelques instants, juste pour écouter.
C'est important quand on marche en forêt de prendre le temps. Surtout quand on est dans un esprit d'aller se balader. C'est peut-être prendre un moment pour se dire, tiens, je vais arrêter de parler si je suis avec une personne ou si on est en groupe, et se dire, tiens, et si on prenait un moment et pour marcher en silence et pour se mettre à l'écoute de la forêt. Ça peut être aussi encore plus fort si on ralentit le rythme de marche. Mais c'est prendre vraiment cette posture d'être dans le silence et de faire comme si son corps s'immergeait vraiment dans cette forêt, et donc d'aller de plus en plus doucement, d'écouter et se mettre à regarder ce qu'il y a autour de soi.
On pourrait jouer à imaginer avoir une ouïe si fine que l'on entendrait un oiseau se poser sur une branche, un insecte déambuler sur une feuille, un orvet glisser au sol, un mulot se retourner dans son terrier, un bousier pousser sa boulette de terre, une fourmi grimper au tronc d'un arbre, un moustique se poser sur une fougère, ou une tique attendre le passage du renard. Peut-être pourrait-on même entendre ce que les arbres se racontent via leurs radicelles.
Bon, tu es toujours là ? Ou bien tu n'as pas encore enlevé ton casque ? Allez, vas-y, c'est le moment. Bon, n'oublie pas de mettre sur pause et puis de revenir, hein.
J'aime beaucoup la tombée du soir parce que tous les oiseaux se mettent à rechanter. J'aime aussi très fort le petit matin. Mais au moment où le soir tombe, j'adore.
Tu sais, un jour, une forestière m'a dit « Gardez la forêt pérenne ». C'est garder une forêt grouillante de vie.
Des étangs, des prairies plus sèches, où on peut voir des genres de bruyères qui fleurissent également au printemps. On a des anémones, des jacinthes des bois. Donc, toute cette variété de biotopes est vraiment particulière et fait la richesse de la forêt de soigne.
Il y a un animal que j'adore, c'est le blaireau. Mais ici, en forêt de soigne, c'est difficile de les voir. J'aime beaucoup le blaireau. Et le pic noir, qui est notre voisin, qu'on entend très très souvent et qui nous envoie des petits messages. Oui, le blaireau, le pic noir.
Si j'étais un animal en forêt, lequel j'aimerais être, probablement une chauve-souris. Je ne sais pas de quelle espèce, mais une chauve-souris, ça vit assez vieux, donc... 25 ans, si elle a de la chance, hein, évidemment. Et donc elle a vraiment le temps, sur une vie, d'acquérir de l'expérience, de connaître ses congénères, de connaître différents endroits. Elle va peut-être retrouver d'année en année les endroits où elle a niché pour avoir ses petits, si c'est une femelle, ou les endroits où elle va passer l'hiver. Les chauves-souris sont capables de voler aussi une certaine distance et vont dans des, toutes sortes de milieux différents. Et elles peuvent voler à une vitesse, peut-être autant que ce vélo qui vient de passer. Donc c'est assez étonnant, on pense qu'elles peuvent voler jusqu'à 35 km à l'heure. Et elles utilisent des ultrasons pour se diriger dans le noir, c'est quand même un fameux exercice. Donc ça veut dire qu'elles ont une très bonne expérience des sons, de la vie en journée. Elles voient, hein, comme nous, on pense toujours que les chauves-souris sont aveugles, pas du tout. Elles n'ont pas besoin de crier, d'utiliser des ultrasons en journée. Ça, c'est très énergivore de crier, vous aussi. C'est quand vous criez, ça prend de l'énergie. Et donc, elles crient par nécessité quand elles ont besoin de se diriger dans le noir pour chasser, pour communiquer avec les autres chauves-souris. Il y a aussi des cris d'alerte chez les chauves-souris. Il y a aussi les mamans qui arrivent à la colonie de chauves-souris qui veulent retrouver leur petit. Donc, elles vont crier, le petit va répondre. Elles vont reconnaître... la voix du petit. Des chauves-souris aussi peuvent se retrouver avec différentes espèces dans les mêmes endroits. Donc je pense que si j'étais une chauve-souris, j'aurais plein de copains de différentes cultures. Je vivrais une vie variée suivant les moments de l'année, puisqu'elle bouge, hein, d'un endroit à l'autre. Donc j'aurais mes endroits où je passe l'hiver, les endroits où je passe le printemps. Et puis j'ai peut-être envie de bouger. Et puis je pourrais aller ici et là... Ça a l'air assez amusant, en fait. Et la forêt, elle offre aussi toutes sortes d'endroits, comme des vieux arbres, des trous dans des vieux arbres. À savoir qu'il faudrait que je choisisse une espèce forestière. À réfléchir.
Dans notre société hyper privatisée, la forêt est encore quelque part un lieu commun qui nous permet, sans clôture, sans propriété privée, qui nous permet de pouvoir se promener sans être empêché par des clôtures, par des jardins privés, par de la propriété privée. Et je crois que ce grand espace de plusieurs milliers d'hectares en commun est quand même donne un paysage qui quelque part est sans limite. Quelque part, on peut s'y perdre même. Et je trouve que c'est important d'avoir un lieu et cette chance d'avoir ce lieu à Bruxelles, qui est un lieu commun immense où on peut s'y perdre.
Avoir cette forêt aux portes de la ville, tu ne trouves pas qu'on a une chance inouïe? Pouvoir s'y évader en descendant d'un tram? Elle est aussi le cabinet de créativité de nombreux artistes. Et comme muse de la forêt, j'en ai accompagné plusieurs. Je me rappelle notamment de Else Morse, qui était notre poète nationale en 2019. Et en marchant, Else y a écrit certains de ses poèmes. Allez, je t'en lis un. Tandis que je me promenais, je déplaçais mon pas. Je marchais en moi et avec moi. Mon corps avançait et tout ce que je savais ou disais était prévu pour être dans cet être à moi. Le soleil versait de la lumière en cercle sur le sol et les ombres des feuilles y tissaient des motifs qui veillaient. Tout éveillé, je rêvais mon enfance tant que je pouvais continuer à devancer mon pas. J'allais être la première à moi qui arriverait. Ce n'est qu'au moment où, fatiguée, je me suis oubliée, que j'ai découvert la force, la fragilité de ce qui, sans moi, s'était avancé. Moi, je trouve que ce poème exprime vraiment bien comment la forêt peut nous perdre et en même temps nous renvoyer à nous-mêmes dans le doux balancement méditatif de la marche. Il paraît qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées au Japon, au Canada, aux États-Unis, qui ont montré que se promener en forêt avait un effet bienfaisant sur notre santé tant psychique que physique. L'air y est bien sûr moins pollué qu'en ville, et la lumière forestière apaiserait notre cerveau. Et regarder l'architecture des arbres qui se divisent d'embranchement en embranchement nous aiderait à réduire le stress. Et dans le sol forestier, il y aurait des bactéries spéciales capables de booster notre système immunitaire. Et puis les arbres émettraient certaines substances chimiques, comme des terpènes, qui stimulent notre système nerveux parasympathique et aident à nous détendre, tout comme les chants des oiseaux, bien sûr. On pourrait dire que la forêt de soigne soigne.
L'idée, c'est de pouvoir, nous, humains, se retrouver au cœur du vivant et de pouvoir, quelque part, bénéficier de ce vivant, mais tout en préservant un équilibre et d'assurer le renouvellement de cette forêt qui ne peut se faire pas seulement grâce aux arbres, mais aussi aux insectes, aux champignons, aux mammifères et aux oiseaux.
Je regrette un peu qu'il y ait tant de chiens qui dérangent quand même beaucoup les animaux. Mais voilà, la forêt est un peu à tout le monde et elle doit servir un peu à tout le monde.
En termes de biodiversité, on est gâté avec la forêt de soigne en mammifères, les chevreuils, du renard. En oiseaux aussi, c'est une forêt où il y a vraiment beaucoup d'espèces d'oiseaux, tant nicheuses qu'hivernantes. Il y a des rapaces diurnes, des rapaces nocturnes, beaucoup passent inaperçus, il y a des espèces très discrètes, et malheureusement il y a d'autres espèces qui ont disparu, comme le pouillot siffleur, le rouge-queue à front blanc, les espèces qui nichaient au sol ont disparu. Alors la surfréquentation du public peut être hors des chemins, ou alors trop de chiens en liberté ont fait que les espèces qui ont leur nid au sol souffrent beaucoup de ces impacts. Et donc évidemment, ça passe inaperçu parce que ce sont des espèces particulières, assez discrètes. Mais ces espèces rares ont disparu à l'insu d'un grand public.
Conscient de la fragilité de la forêt, conscient que cette forêt abrite toute une diversité de vie, le plus souvent insoupçonnée, et donc de venir en tant qu'être humain extérieur, respectueux de ce milieu fragile, de ce sanctuaire, et de venir avec beaucoup de respect en essayant de déranger le moins possible tous ces êtres vivants qui vivent au sein de la forêt, et également d'avoir un comportement respectueux des autres usagers humains qui fréquentent et circulent au sein de la forêt de Fagne.
Je vais te quitter ici, mais je te laisse poursuivre le chemin. J'ai vraiment pris plaisir à t'accompagner sous les frondaisons. Tu peux maintenant ôter ton casque et continuer oreille nue, oreille aux aguets des murmures et cris de la forêt. Et reviens quand tu veux, hein. En forêt, chaque jour est différent, chaque promenade est différente. Pourvu seulement que nous puissions encore bien longtemps être accueillis dans la maison des chevreuils, des renards, des piques, des écureuils, des autours, des hêtres, des tilleuls, des champignons et des fougères. Allez, je te laisse. Avec l'espoir de te retrouver un jour au détour d'un chemin.
D'avoir si proche du centre de Bruxelles, au sein même de la ville, un milieu sauvage de cette qualité-là, et c'est la responsabilité de chacun de le préserver en adoptant un comportement de respect en venant s'y promener et des comportements ad hoc pour préserver justement cette richesse fragile.
Durant cette promenade, nous avons rencontré par ordre d'apparition Stéphane Van Wensberg, chef de la sous-division Forêt et Nature de Bruxelles Environnement, Laurence Delahaye, consultante et formatrice en forêt résiliente, Mario Ninan, naturaliste et ornithologue, Nolwenn Lecuyer, agronome, guide et formatrice en sylvothérapie japonaise, Madeleine Hamon, guide nature, avec la voix de Anne Versailles, et les voix de quelques amoureux, usagers ou riverains de la forêt, Claude, Véronique et Claire. Écriture et réalisation, Anne Versailles. Mixage final, Bastien Hidalgo-Ruiz. Production, Cassène, pour Bruxelles Environnement.